Voilà, donc comme vous le savez, nous sommes en train de terminer Marc lentement, d'accord ? Et là, j'ai décidé, puisqu'on a abordé la résurrection, de faire une sorte de presque une mini-série sur le sujet de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, la semaine dernière, je voulais montrer des vies qui ont été transformées par la résurrection de Jésus-Christ. La semaine dernière, on a vu la vie de Thomas, donc le disciple incrédule. Et aujourd'hui, je voulais voir peut-être une des conversions les plus fulgurantes dans la parole de Dieu, celle de l'apôtre Paul. D'accord ? Donc j'ai intitulé mon message « Paul, le persécuteur transformé ». Alors cette semaine, j'ai lu une histoire amusante dans le Notre Pain Quotidien. Peut-être que vous recevez cette brochure, vous l'avez lue avec moi peut-être. Voici ce que l'histoire disait. Une femme de Grand Rapids, Michigan, aux États-Unis, s'est endormie sur le canapé après que son mari était allé se coucher. Un voleur s'est faufilé par la porte coulissante du jardin que le couple avait oublié de verrouiller. Il est entré dans la maison et sans voir la dame endormie sur le canapé, il monta à l'étage et entra dans la chambre où le mari dormait. Il ramassa, imaginez-vous, le poste de télévision. Alors l'homme endormi s'est réveillé et il a vu une figure debout. Il a dit « Chérie, viens au lit !» Le cambrioleur a paniqué, il a posé le téléviseur, il a saisi une pile d'argent qu'il a vue sur la commode et est sorti en courant. Le voleur a une grosse surprise. L'argent était en fait une pile de tracts chrétiens en forme de billets de banque de 20 dollars d'un côté et de l'autre côté une explication de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et au lieu de se retrouver avec une pile d'argent, l'intrus a obtenu l'histoire de l'amour de Dieu pour lui. Surprise totale. Je pense que cette histoire est vraie, mais j'en sais rien, d'accord, mais je la trouve vraiment amusante. Et c'est vrai qu'en lisant cette histoire, je me suis dit, tiens, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, dont l'histoire nous allons examiner aujourd'hui. Paul était quelque part un intrus, un persécuteur. Mais un jour, de manière totalement inattendue, il a reçu un tract hors du commun, l'apparition de Jésus-Christ en personne. Ça, c'était son tract. Et sa vie a été transformée par Jésus-Christ qui était ressuscité devant lui. Et donc, voilà ce qu'on veut voir. Comment cette résurrection de Jésus-Christ a transformé cet homme dans la suite de notre série sur la résurrection de Jésus-Christ. Alors, comme nous l'avons déjà vu, et là maintenant je reviens vraiment sur notre sujet, beaucoup de personnes ont tenté de prouver que la résurrection de Jésus-Christ est une invention humaine, qu'elle n'a jamais eu lieu. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas la résurrection de Jésus ? Eh bien, parce que si la résurrection de Jésus-Christ a vraiment eu lieu, si la résurrection de Jésus-Christ s'avère être un fait historiquement fiable, alors nous sommes face à quelque chose de véritablement extraordinaire. En fait, nous sommes face à quelque chose de franchement troublant. Si la résurrection de Jésus-Christ a vraiment eu lieu, cela veut dire, écoutez bien, que la mort n'est pas le dernier mot dans la vie. Et la résurrection prouverait qu'il y a une puissance plus grande encore que la mort, et que cette puissance se trouve non pas dans une force, mais dans une personne, et une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Alors bien sûr, il faut dire qu'une telle exclusivité, parce qu'on est en train de dire que Jésus-Christ est la réponse, n'est-ce pas ? Eh bien, une telle exclusivité laisse pas mal de gens plutôt inconfortables. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont cherché à affirmer que la résurrection de Jésus, en fait, n'a jamais eu lieu. Beaucoup de gens ont passé du temps à essayer de faire cela. Alors, la question est celle-ci. Est-il possible de démontrer que la résurrection a eu lieu ? Eh bien, si vous avez écouté mes derniers messages, ça fait 3 ou 4 messages que je vous donne des preuves pour la résurrection, donc je pense que c'est tout à fait prouvable, historiquement. On ne va pas revoir tout ça, puisqu'on l'a déjà vu, pour aller sur le site écouter. Mais une des manières les plus convaincantes de démontrer que la résurrection de Jésus-Christ a eu lieu, c'est d'examiner des vies ou les vies qui ont été littéralement bouleversées par sa résurrection. Et si on devait choisir un personnage dont l'impact sur le monde a été pas moins qu'extraordinaire, vraiment, le monde a été transformé par l'homme qu'on va regarder maintenant, un homme qui non seulement a été transformé par la résurrection de Jésus-Christ, mais encore qu'il a proclamé haut et fort et non sans risque pour sa vie. Et cet homme est un juif orthodoxe, zélé, nommé Saul de Tarse. Même l'Encyclopédie Britannica reconnaît que le changement dans sa vie a eu un impact foudroyant sur le monde. Et la question se pose aujourd'hui, comme dans toute l'histoire, comment un des antagonistes les plus farouches du christianisme est-il devenu un de ses plus grands défenseurs? Comment expliquer le changement dans cet homme? Et cette question laisse beaucoup de gens perplexes. Donc, les quelques minutes que nous avons devant nous ce matin, j'aimerais examiner la vie étonnante de Saul de Tarse et vous montrer comment la résurrection de Jésus-Christ peut encore aujourd'hui transformer des vies. Alors, le plan est très simple. D'accord ? 1. Sa vie avant sa transformation. 2. Sa vie au moment de sa transformation. 3. Sa vie après sa transformation. Donc, il n'y a rien de plus simple. D'accord ? Alors, prenons en premier sa vie avant sa transformation. Qui était cet homme ? Comment il était ? Ou comment était-il ? Premièrement, son héritage. Saul, dont le nom a été changé plus tard à Paul, c'est donc le nom de Paul, que je vais utiliser maintenant, à partir de maintenant, était un zélote hébreu, et il en était fier. Il pouvait tracer sa descendance à la tribu de Benjamin. Par exemple, dans Philippiens 3:5, il dit, dans Philippiens 3:5, il dit, « Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. » Hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien, etc. Donc, il est de la tribu de Benjamin, une des 12 tribus juives. Il était donc vraiment juif. Son nom est significatif car il portait le nom du membre du plus grand de cette tribu, le premier roi d'Israël, le roi Saül. Sa ville. Saul de Tarse est né à Tarse, dans la région de la Cilicie, en Turquie d'aujourd'hui. Dans Actes 21, 39, il le dit lui-même. « Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. » Ceci est important à savoir car grandir dans la ville de Tarse voulait dire être exposé à l'érudition la plus avancée de son jour. Tarse, vous voyez, était une ville universitaire connue pour ses philosophes et sa culture stoïque. Il y avait un géographe grec du 1er siècle avant Jésus-Christ qui s'appelait Strabo. Et lui louait Tarse pour son intérêt dans l'éducation et la philosophie. Donc c'était vraiment un centre important dans ces domaines. Sa famille. Saul venait d'une famille relativement aisée. Ses parents étaient juifs. Et c'est intéressant, j'ai redécouvert ça cette semaine. Acte 23, 6 nous dit ceci. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin et dit « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. » Ça, j'avais oublié ce détail. Paul venait d'une famille aisée, ses parents étaient juifs et son père, lui, avait même été pharisien. Et donc, un leader de la synagogue de Tarse. Mais son père était également citoyen romain. qui était un grand privilège. Paul était donc non seulement juif, mais également citoyen romain. Dans Actes 22 et 25, il est dit ceci, « Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain, parlant de Paul. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, répondit-il. » Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par naissance. » Donc Paul est citoyen romain, mais juif, si vous voulez, de religion ou juif d'héritage, dans ce sens-là. Donc, on apprend que Paul était bénéficiaire de l'enseignement le plus poussé de son époque. Qu'en est-il de sa culture? En plus de son zèle juif, Paul était un homme extrêmement cultivé. Tars, sa ville natale, était, comme je l'ai dit, une ville universitaire connue pour sa culture, ses philosophes. Il est évident que Paul était fort versé dans la culture de sa ville. Il comprenait la pensée helléniste ou hellénistique, la pensée grecque. Il possédait une grande maîtrise de la langue grecque et se montrait habile comme un dialecticien, donc il parlait bien. Il citait, c'est intéressant par exemple dans Actes 17-28, il cite des poètes de l'époque. Je lis Actes 17-28, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. » Citation d'Artus et de Cléante. Dans 1 Corinthiens 15, 33, il cite Ménandre. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et dans Tite 1, 12, il cite Éphéméride. « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchant, des bêtes, ventre paresseux. » Donc tout ça pour montrer que Paul citait sans note ces philosophes qui révèlent une culture. Qu'en est-il de son éducation? Paul non seulement avait une grande culture grecque, il avait une grande culture juive. Son parcours est étonnant. En tant qu'enfant juif, la loi rabbinique prescrivait que chaque garçon devait commencer à étudier les Écritures à partir de 5 ans et l'étude des traditions légales à partir de 10 ans. Ainsi, depuis un tout jeune âge, Paul était immergé dans un curriculum à la maison, à l'école de la synagogue et dans la synagogue. Donc c'était la parole, la Bible, l'Ancien Testament, constamment. Le judaïsme en même temps enseignait l'importance du travail physique et avisait que la prouesse intellectuelle et que le travail physique allaient main en main. Gamaliel était connu pour avoir dit, je cite, « Il y a de l'excellence dans l'étude de la Torah jumelée avec le commerce du monde, car tout Torah sans travail sera un échec à la longue et mènera à l'iniquité. » Un dicton juif disait aussi, ou dit encore, « Celui qui n'enseigne pas le travail à son fils, lui enseigne le vol. » Donc, étude, mais avec travail. Il ne faut pas que j'oublie que je revienne à un point que je viens d'oublier, d'accord? Alors, Paul était intellectuellement très haut placé, quelque part. Mais il avait aussi un travail. Peut-être vous vous rappelez de cela, dans Actes 18, 3. Dans Actes 18, 3, il est dit, et, donc parlant de Aquilas et Priscille, et comme il avait le même métier qu'eux, il demeura chez eux et travaillait, il fabriquait des tentes. Donc Paul avait un travail manuel, il fabriquait des tentes. Voilà. Donc à 13 ans, le garçon juif recevait son bar mitzvah. À ce moment-là, le garçon prenait sur lui la pleine responsabilité de la loi. Et ceux qui étaient particulièrement prometteurs étaient aiguillés vers les écoles rabbiniques pour devenir des enseignants de qualité. C'est donc probablement à l'âge entre 13 et 14 ans, par là, que Paul a été repéré comme un jeune garçon prometteur et fut envoyé à étudier à Jérusalem dans une des meilleures écoles rabbiniques de l'époque sous l'instruction de Gamaliel, l'un des grands maîtres religieux de l'époque, qui lui-même était petit-fils d'Hillel. Donc, je ne sais pas si j'avais lu tout à l'heure, mais dans Actes 22, 3, il est dit, Paul dit, alors Paul lui dit, Dieu te frappera, non, c'est pas ça, ah, 22:3. Je suis juif, né de Tarse, en Cilicie, mais j'étais élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et alors, il est même probable, lorsqu'il était à Jérusalem en train d'apprendre sous Gamaliel, qu'il habitait chez sa sœur. Est-ce que vous savez que Paul avait une sœur ? Les détails sont intéressants. Dans Actes 23 et le verset 16, il est dit « Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. » Donc lorsque Paul était déjà tenu, il y avait un guet-apens pour essayer de le tuer, c'est le fils de sa sœur qui va raconter ça pour que la vie de Paul soit épargnée. Donc il avait une sœur, probablement c'est là qu'il habitait lorsqu'il était à Jérusalem. Donc pendant ces années d'études, il est devenu apparent que Paul était un surdoué, bien qu'avancé, plus avancé que ses contemporains dans le judaïsme. C'est intéressant, dans Galates 1:14, écoutez ce que Paul dit. « Vous avez su quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Donc, il était, comment dire, plus excessif, c'est celui qui le dit, que ses contemporains. C'était le top, du zèle excessif, comme il le dit, pour les traditions de ses pères. J'ai oublié de parler de son apparence physique. En ce qui concerne son apparence physique, alors on n'a pas de photo, bien sûr, d'accord, mais on a quelques indices. Quelques indices peut-être, sans doute une stature relativement normale ou même petite. 2 Corinthiens 10, 10. 2 Corinthiens 10, 10 dit, afin que je ne paraisse, non, verset 10, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Alors je pense qu'une fois qu'il est devenu chrétien, il est devenu très humble, cet homme, mais est-ce qu'il avait une petite stature ? Le mot « Paul », je ne sais pas si vous le saviez, d'origine veut dire « petit ». Alors certains pensent qu'il avait peut-être une petite stature. Beaucoup pensent qu'il avait en plus une infirmité dans sa chair qui le frustrait et dont il se référait occasionnellement. C'était peut-être un problème aux yeux, de nouveau, on ne sait pas exactement, mais il est dit dans Galates 4, le verset 13, ceci, Christ nous a rachetés, non, 4.13, excusez-moi, 4.13, vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Donc il parle d'une infirmité qu'il avait peut-être dans la chair, certains pensent que c'est ses yeux. Certains interprètent 2 Corinthiens 11, 23, non, excusez-moi, 12, verset 7, 2 Corinthiens 12, 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Donc voilà, alors certains disent, oui là, c'est probablement une référence à son infirmité. Le problème, c'est qu'il est dit ici qu'il avait cette écharde dans la chair, et ensuite il explique un ange de Satan pour me souffleter. Donc moi j'ai quand même l'impression que ici, ce texte-là parle vraiment qu'il y avait un ange de Satan, un démon, qui attaquait Paul pour qu'il reste humble. C'est intéressant quand même. Ce qui est sûr, c'est que Paul a été fouetté tellement de fois que son corps a dû être vraiment pas beau à voir. Pas beau à voir. Mais ce qui est particulier avec Paul, c'est sa haine. Sa haine. Oui, malgré tout ce qu'on a déjà vu sur Paul, Paul était connu pour quelque chose d'encore plus important que ces choses-là, c'est qu'il était violemment anti-chrétien. Il haïssait les chrétiens. On peut même dire, écoutez bien, que Paul était sans doute l'adversaire le plus acharné des chrétiens au premier siècle de notre ère. Alors la question se pose, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il était tellement anti-chrétien ? Et pour comprendre la réponse à cette question, il faut comprendre quelle était sa relation avec le judaïsme. Alors on a déjà vu, Paul était 100% dévoué au judaïsme, qui voulait dire qu'il était 100% dévoué à la loi juive et aux traditions juives. Et c'est cela qui déclencha en lui son irrésistible haine contre Jésus-Christ et l'Église primitive. Paul, en tant que pharisien, passait sa vie à essayer d'obéir la loi juive rigoureusement et parfaitement. En fait, il était très fier de cela. Dans Philippiens 3, 4, il est dit ceci, c'est Paul qui écrit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » C'est quand même pas rien de dire ça. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il passait sa vie à tout faire pour obéir chaque lettre de la loi. Et la chose qui enrageait Paul, bon, c'était Saul avant qu'il ait un changement de nom, et les autres juifs contre les chrétiens, plus que toute autre chose, est que Jésus présentait en tant que sauveur, donc les chrétiens présentaient Jésus en tant que sauveur, n'est-ce pas ? En présentant Jésus comme sauveur, quelque part, tu voles de la loi son rôle supposé de salut. Si tu penses qu'en gardant la loi, tu peux te rapprocher au salut, ben te présenter un sauveur et dire « Mais écoute, ça ne sert à rien de garder toute la loi. Jésus est ton sauveur. » Ben quelque part, en un trait, tu annules cette nécessité de garder la loi que tu penses est nécessaire. Et ça, ça enrageait Paul. Saul était violemment anti-chrétien, car pour lui, l'important, c'était de garder la loi pour pouvoir parvenir au salut. L'Encyclopédie Britannica explique que cette secte juive appelée chrétienne frappait au cœur des études rabbiniques de Paul. Pour un juif comme Paul, qui pendant toute sa vie avait méticuleusement tout fait pour obéir avec zèle la loi pour mériter le salut de Dieu, voyez le message des chrétiens comme étant l'apothéose de l'hérésie. C'était contraire à tout ce qu'enseignait le judaïsme. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Jésus, lorsque lui s'adresse aux pharisiens et aux scribes dans Matthieu 23, dit ceci, Matthieu 23, verset 13. C'est Jésus qui parle. Hein. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, et là il parle aux scribes et aux pharisiens à Jérusalem, hypocrites, parce que vous fermez aux yeux, aux hommes, le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Donc, leur judaïsme était devenu un moyen de fermer les gens au ciel. C'est ce qu'il dit ici. Et le verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, donc un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous. Au lieu d'utiliser la loi pour montrer à l'homme qu'il était pécheur, et ensuite montrer toutes les prophéties dans l'Ancien Testament qui pointaient au Messie qui pouvait pardonner le péché, il prenait la loi et mettait la loi comme le standard qu'il fallait atteindre pour être sauvé. Et donc, ils vont droit en enfer, c'est ce que Jésus dit ici. Verset 23, écoutez, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, c'est Jésus qui parle encore, hypocrite, parce que vous payez la dîme et la menthe et la nette et le cumin, donc vous faites vos offrandes, c'est très bien, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Tout ça pour montrer que leur religion était devenue une religion externe, pas de cœur. Le verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez, écoutez bien, à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Waouh ! C'est comme ça qu'il décrit l'établissement juif de l'époque. Verset 28, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Donc, c'était devenu une religion externe. Pas un amour pour le Messie et le Sauveur à venir. Donc, Paul est devenu violent. Sa violence. Alors, Paul, il restait qu'une chose à faire, d'écraser les adhérents de cette nouvelle secte hérétique, les chrétiens, vite et d'une façon violente. Parce qu'il disait tout simplement, écoute, il te faut un sauveur. Mais lui, il avait passé toute sa vie à garder la loi ou essayer de la garder. Il fallait éliminer ces chrétiens qui présentaient le salut comme étant par la foi et non par la loi. Et c'est précisément ce que Paul a tenté de faire. Galates 1:13, il dit, je cite Paul, « Je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Au fait, je pensais, c'est pour ça que Paul, dans tous ses écrits, il parle de la grâce de Dieu, il parle de la grâce de Dieu. Une fois qu'il a été converti, il a compris. Dans Galates 3:11, « Et que nul soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. » Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc une fois qu'il a compris Christ, il a réalisé, mais je fais tout faux. Je suis sauvé par la grâce de Dieu qui me sauve en Jésus-Christ. Donc, il persécute les chrétiens. Acte 26:9. Pour moi, j'avais cru, je cite Paul, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu des pouvoirs des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Il était tout content de voir les chrétiens être mis à mort. Et le plus bel exemple, dans Actes 6, 7 et 8, on ne va pas regarder toute l'histoire, parce qu'on en a une autre à regarder là. Ça, c'est encore l'introduction, d'accord? Mais ne vous en faites pas, on va terminer alors, d'accord? C'est lorsque Étienne a été martyrisé, le premier martyr chrétien. Eh bien, c'est intéressant, dans Actes 7, quelle est la part de Paul dans ce meurtre? Actes 7, 58. Il est dit, ils le traînèrent dehors de la ville et le lapidèrent, parlant d'Étienne. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Chapitre 8, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Acte 8, verset 3, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc là, il devient actif maintenant. Il va les chercher, les débusquer, il les arrache chez eux, il les met en prison. Ça, c'est Paul, l'apôtre Paul. Et maintenant, on arrive quelque part au sommet de ces persécutions. Chapitre 9. Et on devrait tous y aller parce que maintenant je vais parcourir ce chapitre rapidement. Cependant, Saul, respirant encore des menaces et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de cette nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Donc la loi romaine, parce que les Romains avaient envahi Israël, permettait au Sanhédrin juif de s'occuper des affaires juives, même hors de son territoire. Et donc, nous voyons que les leaders des synagogues à Damas coopéraient avec les autorités juives à Jérusalem. Puisque le christianisme grandissait très vite, ainsi fut-il avec les persécutions de Paul. Et s'il y avait quelqu'un déterminé pour arrêter les chrétiens, c'était bien Paul. Et donc, il va jusqu'à Damas pour les trouver, les débusquer et les emprisonner ou les tuer. Donc ça mène au deuxième grand point. D'accord ? Le deuxième grand point, la vie, sa vie au moment de sa transformation. Alors allez avec moi à Acte 9 et je vais simplement lire cette histoire, commenter les versets très rapidement, mais c'est tellement intéressant parce qu'elle est tellement auto-explicative. Acte 9, à partir du verset 4. Donc il est en train d'aller à Damas pour chercher des chrétiens. C'est marrant, on était en Israël en octobre, avec Rouben et tout un groupe de vous, vous vous rappelez. Et le guide est venu nous voir, il a dit, écoutez, on vient de découvrir un nouveau site, il n'est pas encore ouvert au public, on aimerait vous montrer. Alors, c'est trop bien. Alors il a dit, alors on est monté à ce site, c'est un petit peu planqué quelque part, et il y avait un grand temple, en ruine bien sûr. On s'est assis là, il a dit, nous sommes sur la route, l'ancienne route de Jérusalem à Damas. L'apôtre Paul s'est converti quelque part par ici. Alors, on avait les frissons. C'était génial d'être là, se dire, waouh, on voit les montagnes que Paul a vues le moment où il s'est converti. Alors, ce n'est pas certain que c'était à cet endroit-là, mais c'était sur la route, ça c'est sûr. Donc, on y était. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Donc Paul est à cheval, probablement, avec tout un groupe de personnes allant à Damas. Et tout d'un coup, comme le verset nous le dit, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alors j'ai toujours trouvé ce petit détail incroyablement intéressant. Lorsqu'il raconte son témoignage dans Acte 26 et le verset 13, il dit ceci de ce moment-là. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Écoutez, si vous êtes en Israël, à midi, et vous voyez ce soleil du désert, d'une chaleur extrême, de vous dire que la lumière de Jésus était encore plus brillante que celle-là, moi ça me souffle. J'arrive même pas à imaginer quelque chose de plus brillant que le soleil israélien à cette époque. Et pour que Paul le redise comme ça, ça veut dire que c'était vraiment vrai. Donc, verset 4, il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Donc, il savait que c'était Dieu qui faisait quelque chose, qui disait quelque chose, mais il ne savait pas qui était ce Seigneur. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, écoutez bien, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Vous savez ce que ça veut dire? Que celui qui persécute un chrétien persécute Jésus. Directement. Directement. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. De résister en ruant, donc régimber veut dire résister, contre les aiguillons, ces longs bâtons munis d'une pointe de fer servant à piquer les bœufs. Non, il fallait qu'il reconnaisse son péché, Paul. Et c'est ce que Jésus est en train de faire ici. Il l'arrête. Verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais non, il dit, Seigneur, Jésus, que veux-tu que je fasse? Et il est convaincu. Il est convaincu et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entrèrent bien, ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien, donc il est aveuglé temporairement. On le prit par la main et on le conduisait à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Donc là, il est cet homme orgueilleux et cassé, aveugle. Tout ce qu'il a, c'est cette vision et ce dialogue qu'il vient d'avoir avec Jésus ressuscité. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qui s'appelle Droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias et entrait, qui lui imposait les mains et qu'il recouvre la vue. » Alors, j'aimerais juste faire une petite parenthèse ici. Dans certains milieux chrétiens aujourd'hui, on parle de prophéties, que Dieu donne des prophéties directement. Et parfois, on entend dans ces églises où un prédicateur dit « Ah voilà, il y a quelqu'un ici qui a un problème de dos. Il y a quelqu'un ici qui a un problème de ceci ou cela, comme quoi Dieu lui aurait révélé qu'il y a un problème et que Dieu va les guérir. » Moi, j'ai un grand doute par rapport à la véracité de ces prophéties. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, nous avons un exemple sur comment Dieu est spécifique dans les prophéties. Il dit à Ananias, verset 10, « Le Seigneur a dit une vision à Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. » Donc il donne l'adresse. Dieu donne l'adresse. Jésus donne l'adresse. « Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Il donne le nom du propriétaire de la maison et le nom de la personne qui doit aller voir. Il n'y a pas d'erreur. Car il prie, il sait même ce qu'il est en train de faire. Il a vu en vision un autre homme nommé Ananias. De nouveau, le nom est donné ici. Et qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ça, mes amis, c'est une prophétie biblique. C'est pas à peu près, c'est spécifique. Je ferme la parenthèse, d'accord? Donc, Ananias est appelé par le Seigneur pour aller voir l'apôtre Paul. Alors il a peur. Ananias répondit, « Mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait. Et tes saints de Jérusalem. » Il dit, « Mais t'as voir, il a une mauvaise réputation ce gars-là, il tue tout le monde. Il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Waouh ! Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » C'est tellement spécifique. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Donc à quel instant exactement est-ce que Paul a reconnu Jésus comme étant son sauveur et son Seigneur? Est-ce que c'est à l'instant où il a vu la vision de Jésus? Probablement. Bref, tout ce qu'on sait, c'est que c'est ici qu'il se fait baptiser comme preuve externe d'une réalité interne. Et au fait, tout chrétien devrait être baptisé. Un chrétien non baptisé, ça ne devrait même pas exister. Jésus l'a dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc si tu es chrétien, né de nouveau, authentique, sans être baptisé, tu es en désobéissance, tu devrais te faire baptiser. Tu devrais te faire baptiser. C'est intéressant, c'est le premier truc que Paul fait ici. Il se fait baptiser. C'est comme s'il est pressé de se faire baptiser là. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Fantastique. Alors, troisième point. Quelle est la vie de Paul après sa conversion? Après sa conversion. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous lire le prochain verset, le verset 20. D'accord. Le verset 20. Vous êtes prêts? Bon, je finis déjà le verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces le revinrent, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, verset 20, il prêcha dans les synagogues, Jésus est le Fils de Dieu. Non mais allez voir, là il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse un instant ce qui vient de se passer. Cet homme, le plus grand persécuteur de chrétiens, en un instant, change, transformé, et qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et le verset 21, ça continue. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ben bien sûr, ils n'y croient pas. N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui l'invoquent son nom? N'est-il pas venu ici pour emmener lié avec les principaux sacrificateurs? Mais attends, il est dangereux ce gars. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitait Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Et ce qui est super avec Paul, c'est que tout son background juif En un instant, fou, il a compris l'évangile, il a compris que toutes ces prophéties de l'Ancien Testament parlant du Messie, c'était de Jésus. Et tout le coup, il a compris que la loi était là pour condamner l'homme et pour pointer l'homme vers le salut par la grâce en Jésus-Christ. Et toute cette connaissance qu'il avait, fou, ben, il l'a écrit dans le Nouveau Testament. C'est fabuleux. Confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alors là, la question que je pose, mesdames et messieurs, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à cet homme? Comment expliquer ce changement si rapide, si radical, si draconien, si complet? Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est Paul qui la donne. Dans 1 Corinthiens 9, 1, il dit, je cite, « N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Ben oui, Paul, il dit, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le privilège de voir Jésus m'apparaître. Et il m'a sauvé. Alors vous dites, ouais, mais c'est pas juste, moi je ne l'ai pas vu, Jésus apparaître. Ben vous rappelez ce que Jésus a dit à Thomas, bénis ceux, Jean 20, il le dit, béni sois-tu parce que tu as vu. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il ne faut pas avoir vu Jésus, il ne faut pas avoir touché Jésus pour être sauvé. Il faut juste avoir être cru en lui pour qu'il te sauve. Et dans Actes 22, 6, Paul décrit exactement comment il a vu Jésus. Je cite, comme j'étais en chemin, je vous l'ai déjà lu tout à l'heure, et que j'approchais Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tomba par terre, j'entendis une voix me disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Qui a transformé cet homme? Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Jésus-Christ ressuscité a terrassé Paul. Il a reconnu ce jour-là que sa vie était une vie remplie de péchés, même s'il était religieux, c'est ça qui est intéressant. Tu peux être le plus religieux des personnes, mais un jour tu réalises face à la grâce de Jésus-Christ que tu ne vaux rien. Pourquoi? Parce que pour être avec Dieu pour l'éternité, il faut être saint, il faut être parfait, il ne faut pas juste être amélioré. Non. Jacques 2, 10 nous dit qu'un péché, c'est trop pour nous permettre dans la présence de Dieu. Donc, il faut que quelqu'un ôte le péché. Jean 29. Jean-Baptiste a dit, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas une amélioration, le christianisme. C'est un changement radical où ton péché, en un instant, est ôté par le Fils de Dieu mort et ressuscité. Vous savez ce qui est dingue? Cet homme est devenu, d'un jour à l'autre, le plus grand proclamateur de l'évangile de Jésus-Christ, probablement de tous les temps. Celui qui persécutait les chrétiens est devenu le plus grand proclamateur de l'évangile de Jésus-Christ de tous les temps. Et tenez-vous bien, de sa main ont été écrits, en plus, 13 des livres du Nouveau Testament. C'est quand même pas rien. Alors, quelle fut la nature de sa transformation? Un changement de caractère. L'Encyclopédie Britannica décrit Paul avant sa conversion à Jésus-Christ comme étant amer, intolérant, orgueilleux, persécuteur, fanatique, religieux, capricieux. Après sa conversion, il est décrit comme étant patient, aimable et doté d'un sacrifice de soi. Un changement de relation. D'un haïsseur de chrétiens, Paul est devenu leur plus grand défenseur et leur plus grand ami. Changement de message. Bien que Paul a toujours aimé son héritage juif, il a compris que le salut ne vient pas des œuvres de la loi, mais par la foi dans le Messie, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et on a vu les versets tout à l'heure. Et il dit, car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Romains 3, 20, 24 et 28. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et là, je cite Paul. un changement de perception. Paul soudainement a compris que l'agneau dans l'Ancien Testament, mort pour les péchés des hommes, pointait en fait au Fils de Dieu, le Messie Jésus-Christ qui allait venir sauver son peuple de son péché. Il a compris que cet agneau était le Messie et qu'il devait mourir sur la croix et ressusciter de la croix pour sauver les hommes. Il a reconnu que la résurrection était la victoire sur le péché des hommes. La croix n'était plus une pierre d'achoppement pour lui, mais une voie, la voie du salut. Et il y avait un changement de mission. Paul a finalement compris que les païens, les non-juifs, ne devaient pas être dénigrés, mais qu'eux aussi devaient entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, il leur a proclamé Christ. Il est allé aux juifs en premier, mais ensuite aux païens. Tout le monde entier devait entendre l'évangile de Jésus-Christ. Et il a embarqué sur trois voyages missionnaires. Trois voyages missionnaires. La deuxième partie de Livre des Actes, à partir de 13 jusqu'à 28, ce sont ses voyages missionnaires et son dernier voyage à Rome, où finalement il a été martyrisé. Il a tout sacrifié. Il a tout sacrifié pour le nom de Jésus-Christ. Il a beaucoup souffert. Il a été martyrisé à la fin, c'est sûr. Alors, conclusion, avant de participer dans la Sainte Cène ce matin. Un certain Elias Andrews a dit, je cite, « Beaucoup de personnes ont trouvé dans la transformation radicale de ce pharisien juif l'évidence la plus convaincante de la vérité à laquelle Paul fut converti, ainsi que la valeur ultime de la place de Jésus-Christ. » Un certain Archibald McBride, professeur à l'université d'Aberdeen, a dit, je cite, « L'influence d'Alexandre le Grand et de Napoléon sont pâles comparées à l'influence de Paul. » Comment expliquer cela? Paul expliquera tout au long de sa vie et au prix de sa vie que c'est parce que Jésus-Christ a transformé sa vie. Deux professeurs à Oxford, Gilbert West et Lord Lyttelton, ont décidé un jour de tenter de détruire le christianisme. West allait prouver l'erreur de la résurrection. Lyttelton allait prouver que Saul ou Paul de Tarse ne s'était jamais converti au christianisme. Les deux hommes ont terminé par conclure l'opposé de ce qu'ils cherchaient de conclure. Lyttelton a écrit ceci, je le cite, « La conversion de Saint Paul à elle seule, ainsi considérée, est une démonstration suffisante pour prouver que le christianisme est une révélation divine. » Il a conclu que si les 25 années de souffrance de Paul et son service pour Jésus-Christ étaient une réalité, alors sa conversion était vraie parce que tout ce que Paul a fait a commencé avec cette transformation soudaine dans sa vie. Quelque part, c'est la souffrance de Paul qui a presque confirmé la véracité de sa conversion. Et il dit, si sa conversion était vraie, alors Jésus-Christ est vraiment ressuscité des morts. Car tout ce que Paul était, et tout ce qu'il a fait dans sa vie, il l'a toujours attribué à la résurrection de Jésus-Christ. C'est beau, hein? Et vous savez, je parie que je pourrais donner un message sur chacune de vos vies. Parce que chacun de vous qui connaissez Jésus-Christ aujourd'hui, vous avez la même histoire. Oh, les circonstances sont peut-être très différentes. Mais c'est la même histoire. Avant de connaître Jésus-Christ, vous étiez comme ça? Un jour, Christ ressuscité est rentré dans votre vie. Et le résultat, ben, vous pouvez le décrire. Vous pouvez écrire un livre du résultat. Amen. Inclinons-nous quelques instants et préparons nos cœurs à la Sainte Cène de ce matin, que ce soit un moment vraiment, vraiment spécial en réfléchissant plus à cette vie transformée de Paul et la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la manière que tu transformes les vies encore aujourd'hui. Rien n'a changé, Seigneur. Rien n'a changé. Je te remercie d'avoir transformé la mienne, Seigneur. Je te remercie pour toutes les vies que tu as déjà transformées, qui sont présentes ici ce matin. Peut-être y a-t-il des personnes ici ce matin qui n'ont pas encore connu la transformation de Jésus-Christ. Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour pour eux. Révèle-toi comme tu l'as fait pour Paul, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux sauver un homme ou une femme ou un enfant. Seigneur, nous sommes réjouis ce matin parce que Jésus est ressuscité, il est vraiment vivant. C'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, Galates 2:20 nous le dit. Mais pour ressusciter, il fallait que tu meures en premier, que tu prennes sur toi le péché du monde. C'est ce que tu as fait à Golgotha. Et c'est ce que nous allons célébrer maintenant, Seigneur. Un rappel tangible en tenant le pain, en tenant le vin, en mangeant et en buvant, Seigneur. Que tu as donné ton corps, que tu as donné ton sang, que tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. C'est moi qui méritais tout cela. La crucifixion, c'est moi qui la méritais pour mon péché, mais tu l'as prise à ma place, toi qui étais innocent. Et tu as vaincu la mort, et tu m'as ressuscité avec toi, Seigneur. Alléluia et merci.